Vous écoutez RTL.
RTL Matin, Yves Calvi.
Laurent Gérard avec nous dans quelques minutes, c'est promis, mais tout de suite, notre revue de presse du vendredi matin avec Amandine Bégaud. Il est 8h39 et ce matin, Amandine, on fête les pères.
Oui, la fête des pères, la vraie, c'est dimanche, mais la Croix prend ce matin un peu d'avance. Et le quotidien catholique publie en effet une grande enquête sur la place des papas. Les Français tiennent aux pères, titre le journal. 93% des personnes interrogées considèrent que les pères ont un rôle essentiel pour les enfants. Les trois quarts estiment que oui, les rôles du père et de la mère sont différents. 89% jugent que l'absence d'un père, c'est quelque chose qui marque toute la vie. Résultat d'un sondage IFOP qui a été commandé, précisons-le, par Alliance Vita, cette association qui milite contre l'ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes. Alors attention, hein, relativise toutefois Jérôme Fourquet, le patron de cette enquête. Ce n'est pas parce que les Français sont attachés à la place du père qu'ils sont contre l'extension de la PMA. Tout dépend, explique-t-il, de la manière dont on pose la question. Si on met en avant l'ouverture d'un droit, ils sont majoritairement favorables. En revanche, si on présente le droit de l'enfant à avoir un père, alors là, les Français sont majoritairement opposés à toute évolution de la loi. Tout cela, d'ailleurs, n'est d'après lui pas contradictoire. Dans tous les cas, poursuit-il, vous avez 40% de gens pour, 40% de gens contre et 20% qui oscillent. Ce sont, conclut-il, ces derniers qui portent la tension éthique et dont la réponse, donc, peut varier selon la façon dont la question est posée. Son papa, elle, aurait eu aujourd'hui 75 ans. Laura Smet, la fille de Johnny Hallyday, accorde ce matin une grande interview au magazine Elle, interview consacrée à son premier court-métrage dans lequel sa mère, Nathalie Baye, tient le premier rôle. Elle revient aussi sur cette bataille autour de l'héritage de Johnny, cette sordide histoire, disait-elle tout à l'heure sur RTL. Sordide, le mot est fort, il n'est pas prononcé dans l'entretien accordé au magazine. Laura explique en revanche à quel point cette histoire a radicalement changé sa manière de voir la vie. J'ai eu, confie-t-elle, une sensation de vertige, d'hyper-violence. Je ne me suis pas sentie à ma place. Cela m'est tombé dessus d'un seul coup. Je n'y étais pas préparée. Vous savez, ajoute-t-elle, parfois on se met dans des situations extrêmes, mais c'est nous qui choisissons. Là, je n'ai rien choisi, j'ai juste subi. Cela a été, conclut-elle, tellement violent que mon cerveau ne supporte plus de voir des choses dures. Pas même les films de Tarantino dont elle était pourtant fan. Lui considérait Johnny non pas comme son père, mais comme son frère. Michael Hallyday, son cousin, le fils du père adoptif de Johnny, prendra la parole tout à l'heure à La Madeleine, dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Il dit ce matin vouloir défendre l'honneur de Johnny. C'est mon devoir, explique-t-il, mon devoir de rappeler quel homme merveilleux et généreux il a toujours été. Il n'a jamais laissé tomber sa famille, dit Michael Hallyday, qui raconte que quand sa mère a été malade, c'est Johnny qui a payé son traitement, sans jamais s'en vanter. Personne, ajoute-t-il, ne lui a jamais dicté ce qu'il avait à faire, manière de démonter l'argument de certains selon lequel Johnny n'aurait pas décidé seul de son testament. Johnny, explique-t-il, avait une angoisse terrible, que sa femme et ses filles viennent à manquer, il fallait qu'il les mette à l'abri. Il me l'a dit, poursuit-il. Il estimait que Laura et David n'avaient plus besoin de lui à ce niveau-là. C'est rude, c'est vrai, mais Johnny avait ce côté rude. Il savait, conclut-il, que sa décision rendrait la vie de Laetitia infernal. Enfin, toute autre chose, dans Society, à la veille du premier match des Bleus à la Coupe du Monde, le magazine a retrouvé les Zinédine nés en 1998. Ils sont 190 quand même, avoir été baptisé ainsi cette année-là, c'est 4 fois plus que l'année d'avant. Il y a Zinédine Sulpice, lui il est né le 16 juillet 1998, 4 jours donc seulement après le sacre de l'équipe de France. Il raconte comment ce prénom lui a permis de décrocher son premier job. Le recruteur ne lui a parlé que de ça lors de l'entretien. Zinédine Medjekan, lui est né le 24 juin 1998 et il raconte comment la semaine dernière, l'un de ses clients, il travaille dans un restaurant, lui a donné 50 euros de pourboire. Juste parce que je lui ai dit, dit-il, que je m'appelais Zinédine et que j'étais née en 98. Elle s'appelait Zinédine comme Zinédine Zidane, c'est quand même mieux, ajoute Zinédine Belharfi, que Al, comme Al Capone. Zinédine Saadi, lui, a souffert de ce prénom un jour, alors qu'il est en centre de formation dans un grand club de foot. Un entraîneur lui lance, tu avais le choix entre le prénom et le talent, eh bien tu as choisi le prénom. C'est rude. Le foot Zinédine Mahamoud, lui, en ferait bien son métier. À 20 ans, ce Zinédine-là est né à Mayotte. Il vit aujourd'hui à Lorient. S'il ne réussit pas dans le foot, il pense devenir gendarme. Gendarme pour rentrer au GIGN, son autre rêve. Je veux, explique-t-il, devenir quelqu'un d'important. Sauver des vies, c'est plus important que marquer des buts. Voilà son but ultime, prouver que l'on peut inventer sa propre version du Zinédine. On appelle aussi ça tuer le père.
Et nous fêterons les papas dimanche, c'est promis. C'était la revue de presse d'Amandine Bégaud.